À toi la gloire, chantons-nous donc bien souvent dans nos temples, et aussi nous disons dans nos liturgies, gloire à Dieu au plus haut des cieux, nous disons qu'il faut rendre gloire à Dieu. Tout cela sont des expressions bien souvent utilisées, et pourtant, elles restent, je crois, un peu mystérieuses, c'est-à-dire, quel sens est-ce que cela a vraiment ? Le mot gloire est certainement un faux ami pour nous, parce que quand on pense à gloire, nous pensons à la célébrité, avec un relan de victoire guerrière, de la gloire du vainqueur, avec des armées qui défilent, des arcs de triomphe. Et c'est vrai que c'est une image que nous n'aimons pas tellement dans notre vision chrétienne, où nous aimons plutôt envisager un Dieu de tendresse, d'amour, de présence, de douceur, de lumière, et pas tellement un Dieu victorieux qui écrase ses adversaires. Il est vrai que les protestants ont milité pour cela aussi, quand ils ont voulu tutoyer Dieu. On ne tutoie pas le roi, mais on tutoie Dieu. Et donc la réforme a tout fait pour rendre justement Dieu plus proche de l'humain. Et je crois que c'était dans le sens, d'ailleurs, de l'action du Christ, qui a milité pour un Dieu non pas tellement roi glorieux, mais pour un Dieu père, pour un Dieu tendre, et pour un Dieu proche, plein de miséricorde, de tendresse, de grâce et de pardon. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai déjà milité contre la doxologie du Notre Père, c'est-à-dire la conclusion du Notre Père que nous utilisons. Cette prière qui est toute pleine de tendresse, d'amitié, de douceur, de pardon, voilà qu'elle se termine par cette chose effroyable, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles, amen. On a l'impression qu'en quelques mots, on détruit tout l'Évangile. On détruit justement tout ce que nous enseigne cette prière du Notre Père. Et j'ai déjà dit, et je l'ai déjà fait, que finalement j'aimerais mieux de temps en temps retirer cette doxologie, qui d'ailleurs n'est pas biblique, elle n'a pas été prononcée par Jésus, c'est un ajout postérieur de la tradition de l'Église. J'aimerais remplacer cette doxologie en disant à la fin du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent la tendresse, la douceur, la grâce et l'amour. Parce que c'est au nom de cela que nous pouvons demander toutes ces choses à Dieu. Alors que viennent faire ces histoires de gloire dans nos textes évangéliques? Parce que la gloire s'y trouve tout de même dans l'Évangile, et il faut bien le dire. Et bien pour ça, il faut, comme d'habitude, revenir à l'origine et essayer de se demander ce que signifie la gloire. Et cela, comme d'habitude aussi, une recherche étymologique est assez instructive. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire d'hébreu pour savoir que la gloire, kavod, en hébreu, est un mot qui normalement désigne le poids, ce qui pèse lourd, ce qui est massif, ce qui est important, ce qui est pesant. Et donc déjà, nous pourrions trouver un premier sens, qui est de dire que glorifier Dieu, cela ne veut pas dire l'éloigner de nous pour le considérer comme un Dieu redoutable, mais au contraire, cela veut dire donner du poids à Dieu. Et ça, c'est important, certainement. Nous devons glorifier Dieu dans notre vie, c'est-à-dire faire en sorte que dans notre existence, Dieu est un poids. Il est une importance, quelque chose de considérable. Comme on dit, un argument de poids. Eh bien, Dieu doit être une préoccupation de poids dans notre vie. Et il est vrai que parmi les choses qui nous préoccupent dans notre existence, il y a des préoccupations de paille et des préoccupations de plomb, ou d'or, dirais-je. Et donc il y a des choses qui n'ont aucun poids, des choses qui n'ont aucune importance, parce qu'elles sont volatiles, passagères, et il y a des préoccupations qui peuvent être des sujets de poids, c'est-à-dire avec importance. Et nous retrouvons là la demande du Notre Père, quand nous lui disons que ton nom soit sanctifié, cela veut dire la même chose. Cela veut dire que le nom de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même, ait dans notre existence une place à part et qu'on lui donne une place de choix. Parce que dans nos vies, nous avons des tas de préoccupations, et c'est normal. Nous nous préoccupons de notre santé, de notre argent, de nos loisirs, de nos vacances, de notre confort, de notre métier, de nos enfants, et puis de Dieu, et puis aussi de notre voiture et de notre maison de campagne. Eh bien, parmi ces préoccupations, il faut que celle de Dieu ait une place particulière. Non pas qu'elle ait toute la place, hein, je ne crois pas que l'Évangile n'ait jamais dit que nous devions ne nous préoccuper que de Dieu et n'avoir aucune préoccupation, aucun attachement terrestre, mais simplement que la préoccupation de Dieu soit quelque chose qui soit à part et ait une place de choix, je dirais. Ce soit quelque chose d'important, d'essentiel et de fondamental. Et donc voilà, rendre gloire à Dieu, c'est peut-être en effet donner à Dieu la place qu'il mérite, l'importance qu'elle a sienne, peut-être un petit peu, une petite teinte de royauté, pourquoi pas, mais de dire, voilà, il faut effectivement que Dieu règne dans nos vies quand même. En tout cas, qu'il ait la place qu'il doit avoir en fonction de son importance. Comme le dira le Christ, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et donc, rendre à César ce qui est à César, on sait faire, c'est la laïcité. Et comment rendons-nous à Dieu ce qui est à Dieu ? Il ne faut pas oublier aussi cela. Et je crois effectivement que la gloire appartient à Dieu. Ça, c'est une profession de foi, je dirais, qui est tout à fait essentielle. Parce que je suis convaincu que Dieu est la seule réalité de poids dans ce monde. Tout le reste est passager. Tout sur cette terre, tout ce que nous vivons est éphémère. Tout est conditionné sur cette terre et dans ce monde matériel. Tout peut naître et disparaître. Et en ce siècle où nous nous préoccupons tant des monuments historiques, ne vous faites aucun souci. De toute façon, un jour ou l'autre, Notre-Dame de Paris sera détruite. Et même le diamant n'est pas éternel, dit-on. Rien sur cette terre n'est éternel. Il n'y a pas de monument historique. Il n'y a rien qui puisse être sauvegardé pour l'éternité. Même ce à quoi nous tenons n'est qu'une ombre qui passe. Et il est vrai que tout est léger dans ce monde. Et nous avons médité il y a quelque temps sur l'Ecclésiaste, et c'est peut-être une bonne méditation cela, effectivement. Tout est vanité, tout n'est que vanité, que buée, que vapeur, tout n'est que vent et poursuite du vent. Sur cette terre, rien n'est rien. Rien n'est durable, rien, tout est passager, tout est volatile, en quelque sorte. Et nous devons comprendre cela. Et que donc il n'y a pas de gloire du monde. Le monde n'a pas de gloire. Rien dans ce monde n'est glorieux, dans ce sens que rien dans ce monde n'a du poids. Parce que tout dans ce monde est comme une balle emportée par le vent qui aujourd'hui est ici et demain ne sera plus. Et donc il n'y a pas de vraiment quelque chose qui reste, qui demeure et qui dure. Tout passe. Et donc notre vie n'est que buée, notre vie n'est que fumée, notre vie n'est que vapeur. Alors nous essayons de nous accrocher désespérément à des choses qui demeurent, à nous accrocher à... Alors quand nous nous accrochons à notre santé et à notre jeunesse, de toute façon, c'est perdu d'avance. Alors nous pouvons nous accrocher à notre patrimoine que nous allons léguer, transmettre, mais vous rigolez, ça n'est rien du tout non plus. À notre métier, à notre réussite, à notre propre gloire, mais tout cela est bien vain. Et donc c'est ça le problème de notre vie. Comment donner de la consistance à notre existence ? Et je crois que le seul moyen, c'est de l'accrocher à quelque chose qui, elle, ait du poids. Et d'accrocher notre existence à quelque chose qui, elle, soit durable, justement, et fort. Accrocher sa vie à l'éternel. Et l'éternel, c'est Dieu. Alors chacun se fait une image de Dieu, mais chacun doit donc se demander... Qu'est-ce qu'il y a dans ce en quoi il croit qui soit transcendant, qui soit éternel, qui soit au-delà, justement, des choses passagères de ce monde ? Alors, ce peut être le Dieu de votre enfance, le Dieu dans lequel vous croyez, que vous priez, ou alors un Dieu qui est une conviction, de dire « je crois que tout peut s'écrouler, il peut y avoir une guerre mondiale ou n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui sera toujours possible, c'est d'aimer. » Parce que tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'amour possible. Et donc, l'amour est effectivement ce qu'il y a de fondamentalement, fondamentalement durable, c'est la seule chose dans laquelle il y ait un poids de gloire. Ou en tout cas, voilà, c'est de construire sa vie sur Dieu qui, lui, est le roc, Dieu qui, lui, est le rocher. Vous pouvez tomber malade, Dieu sera toujours là. Dieu est toujours là comme le rocher, comme la forteresse, comme la muraille, comme la montagne indestructible à laquelle je m'accroche, parce que je peux tout perdre dans ce monde, sauf Dieu et sauf l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sera toujours là à mon côté. L'amour des hommes, des humains que j'ai, même de ceux qui me sont le plus proches, peuvent toujours me décevoir. Et involontairement, sans doute, même ceux que j'aime le plus peuvent me trahir, me tromper, me blesser. L'amour de Dieu, lui, est indéfectible, indéracinable. Tout peut partir, cela, ça reste. C'est la fondation solide. Voici ce que nous pouvons faire. Construire notre maison sur le roc, comme dit l'Évangile. Construire notre maison sur une base solide. Et c'est ça la base solide, c'est Dieu lui-même et l'amour de Dieu. Il est vrai que notre vie en elle-même, et je vous l'ai dit, est fondamentalement légère. C'est une plume, une paille emportée par le vent. L'Ecclésiaste l'a dit, et ça a aussi été exprimé joliment dans le titre d'un roman de Kundera, « L'insoutenable légèreté de l'être ». L'insoutenable légèreté de l'être. C'est vrai qu'il y a là, dans la vie humaine, quelque chose d'insoutenable. Et je pense que, en ce sens, l'athéisme strict est insoutenable. C'est-à-dire, si notre vie n'est rien, si rien n'est rien, on tombe dans un relativisme insoutenable. Et comment, justement, trouver le contraire, c'est-à-dire où trouver la gloire, le poids? Eh bien, je vous l'ai dit, il y a la solution, c'est de trouver, je crois, cette gloire et ce poids en dehors de l'être. Parce qu'en lui-même, l'être est d'une insoutenable légèreté. Et on ne peut pas trouver en soi-même le poids qui ne s'y trouve pas. On ne peut pas donner soi-même du poids à sa propre existence, parce qu'on ne peut pas, quand on est soi-même léger, se donner soi-même du poids. C'est impossible. Ce serait aussi absurde que le navigateur dans son bateau, qui se dirait « je vais souffler sur la voile pour faire avancer mon bateau ». Vous pouvez toujours souffler sur la voile de votre bateau, le bateau n'avancera pas, parce qu'on ne peut pas se donner à soi-même le mouvement. On ne peut pas. Vous pouvez vous concentrer en vous disant « je veux peser plus lourd ou plus léger », vous ne pouvez pas. Et donc le seul poids que nous pouvons trouver pour notre propre existence, c'est de le chercher à l'extérieur, de trouver un point d'appui qui solidifie notre existence, d'appuyer notre vie sur quelque chose qui, lui, soit solide. Et ça, c'est aussi la parole de Newton, vous savez, qui a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Eh bien, c'est cela, trouver dans sa vie le point d'appui dont a rêvé Newton. Et ce point d'appui, eh bien, pour nous, c'est Dieu, effectivement, ou l'amour de Dieu. Quelque chose d'éternel, de transcendant. Et il faut être dans sa vie dans une quête, justement, de l'absolu, de la transcendance. Et cela ne peut se faire qu'en sortant de soi-même. Parce que le point d'appui, il n'est pas au fond de vous-même. Le point d'appui, il est en dehors. Et donc, la démarche de foi, c'est justement une démarche anti-égoïste. De se dire, je sais que moi, je suis peu de choses, je suis une paille emportée par le vent. Mais la seule gloire que je peux trouver, c'est en la trouvant ailleurs, à l'extérieur de moi-même. C'est en sortant de moi-même pour accrocher ma vie à l'unique incréé, au seul inconditionné, à la seule chose solide, l'éternel, la seule réalité qui n'est pas usée par le temps, et c'est Dieu. Et donc c'est là le paradoxe. Si je veux moi-même me donner de la gloire, on rêve tous un peu de gloire, ou d'éternité, ou de durabilité, de solidité, de force. C'est difficile de se contenter, de se dire « je ne suis que léger, je ne suis que rien ». C'est difficile et je pense que ce serait même une erreur, parce que notre vie peut être plus qu'un brin de paille agité par le vent. Et donc le seul moyen de se donner de l'importance, c'est de donner de l'importance à Dieu. Le seul moyen, c'est justement de sortir de nous-mêmes pour transférer notre attachement de gloire à celui qui est la vraie source de gloire. Et donc le paradoxe, il est là, c'est en glorifiant Dieu que nous héritons d'une part de sa gloire. Et notre vie est d'autant plus forte, que nous donnons de l'importance à ce qui est en dehors de nous. C'est en le glorifiant Dieu lui-même que nous nous glorifions. Et cela, on l'entend dans l'évangile de Jean, qui est l'évangile qui parle le plus de la gloire. Quand Jésus dit en Jean 8, 54, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire, on ne peut pas se glorifier soi-même. Mais dit le Christ, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et la gloire du Christ, c'est justement qu'il n'a pas cherché à être quelqu'un lui-même, mais qu'il s'est vidé de sa substance pour être entièrement en Dieu. Donc nous ne pouvons pas chercher la gloire en nous-mêmes parce que en nous-mêmes, nous ne sommes qu'une vapeur. On ne peut que se donner à soi-même. On ne peut pas plutôt se donner à soi-même ce que l'on n'a pas. Et donc le paradoxe de la gloire, vous disais-je, c'est qu'on ne la trouve en soi que si on la cherche à l'extérieur. Qui veut sauver sa vie la perdra, dit encore l'Évangile, et qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Une petite illustration de cela, c'est quelque chose qui m'est cher et qui est la manière avec laquelle Jean-Sébastien Bach signait toutes ses œuvres. Vous savez sans doute que Jean-Sébastien Bach, en bas de toutes ses compositions, mettait ces trois lettres mystérieuses, S, D, G. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et on sait aussi que Bach, contrairement à la plupart de ses contemporains, n'a jamais cherché la gloire humaine, alors qu'il aurait pu avoir du succès, faire de la musique mondaine qui plaise aux gens de son époque. Il savait le faire, et il l'a fait d'ailleurs dans des circonstances très précises et très rares. Mais d'habitude, il ne cherchait pas sa propre gloire, il ne cherchait pas à plaire aux hommes, et il composait comme pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et tant pis si les autres ne comprenaient pas. Ça lui a valu de vivre pauvre, avec une gloire personnelle sans doute faible de son vivant, mais ça lui a valu aussi d'être justement cet homme de gloire, parce que son importance, il ne la tenait pas de lui-même, mais il la tenait de celui en qui il mettait sa confiance. Et en même temps, il y a aussi d'ailleurs une petite pique dans ces trois lettres S, D, G, Soli Deo Gloria, parce que c'était une opposition à la devise des jésuites, je crois, Ad majorem gloriam Dei, Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Et donc cette devise pour la plus grande gloire de Dieu, Bach a dit non. C'est pas pour la plus grande gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu seulement et rien d'autre. Donc une sorte de radicalité de la foi qui est effectivement tout à fait extraordinaire, mais qui a permis, je crois, à Bach justement de toucher quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Et donc accrocher sa vie à quelque chose d'extérieur, parce que tant qu'on reste seulement en soi-même, on ne peut rien faire. Et ça me fait penser à cette histoire qui est drôle à force de n'être pas drôle, que l'on racontait aux enfants, du fou qui repeint son plafond, et l'autre arrive et lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Cette histoire n'a jamais fait rire personne, et elle finit par faire rire à force de n'être pas drôle, vous disais-je, mais néanmoins, elle détient une sagesse philosophique et théologique considérable. Qu'est-ce que ça a d'impossible ? C'est que tant qu'on s'accroche à quelque chose qui ne tient pas, vous tomberez. Et donc il y a à la fois cette idée que justement nous ne pouvons tenir dans notre vie que si nous l'accrochons à quelque chose qui tient, et que si nous l'accrochons à autre chose qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que celui qui se tient lui-même ne se tient pas. Et c'est pourquoi la gloire ne peut se trouver que par l'extérieur, et en l'accrochant à quelque chose qui tient, à quelque chose qui lui-même tient. Et ça, c'est le danger aussi dans notre existence, de chercher la gloire non seulement en nous-mêmes, mais même à l'extérieur, dans quelque chose qui ne vaut rien. Et à ce moment-là, notre vie risque de s'écrouler avec ce à quoi on l'a attaché. Et ces sources fausses de gloire, ces idoles modernes, vous les connaissez, c'est de prétendre accrocher le sens de sa vie à sa jeunesse, à sa santé, à son métier, à sa réussite, et même à la réussite de son couple, à l'argent. Tout cela peut vaciller et nous être enlevé. Et qu'est-ce qui reste ? Ce qu'il reste, c'est un point fixe, ce à quoi nous l'avons attaché. Et c'est, je crois, l'enjeu de la foi. Et puis cet enjeu de la foi, il a aussi une autre importance, c'est d'être un point sur lequel nous nous accrochons et aussi une référence. un absolu dans la vie. Il faut que dans notre vie, il y ait quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Comme le marin, maintenant il y a des GPS, mais à l'époque ne pouvait faire le point qu'à partir d'un point fixe, d'une étoile, d'un horizon. Il faut qu'il y ait quelque chose en dehors de notre propre référentiel qui nous permette de savoir où nous en sommes. Et ça encore, c'est la foi. Donc vous voyez que Dieu est absolument essentiel et il est fondamental que Dieu ait cette place importante sans laquelle nous ne pouvons que dériver et nous perdre. Et puis en fait, la gloire dans l'Ancien Testament, c'est le poids, c'est vrai, mais c'est aussi, si on regarde tous les passages où elle est utilisée, c'est aussi l'apparence, la manière avec laquelle Dieu se rend visible. Et d'ailleurs, en grec, c'est la gloire doxa, c'est aussi l'apparence. Doxa, en grec, c'est l'apparence comme la gloire. Ces deux sens sont dans le mot, comme dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament. Comme on dit, un paradoxe, c'est quelque chose qui n'est pas comme il apparaît, autrement dit. Et où les docètes, qui étaient des chrétiens au début du christianisme, qui ne croyaient pas dans l'humanité du Christ, qui disaient « Jésus, c'est Dieu qui a une apparence humaine », donc prétendaient que c'était la doxa divine, la doxa humaine du Christ n'était qu'une apparence, et ça a été condamné. Et donc la doxa, c'est l'apparence. Comme on le voit Moïse dire à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », c'est-à-dire « Montre-toi à moi ». Ou en Exode 24, où il est écrit « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël ». Et donc la gloire de Dieu, c'est la manière avec laquelle Dieu se rend présent. Donc c'est la façon avec laquelle il se fait voir, avec laquelle il se manifeste. C'est la présence agissante de Dieu, c'est la présence puissante de Dieu dans ce monde, effectivement. Et du coup, travailler à la gloire de Dieu, c'est peut-être aussi le rendre visible, lui permettre d'agir et de le laisser agir. Et c'est ce que je veux comprendre dans la prière sacerdotale de Jésus quand il dit « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». Cela signifie, je crois, que ce qu'il veut dire, c'est que pour donner de l'importance à Dieu, eh bien, il faut donner de l'importance au Christ. Et en montrant comment Dieu agit dans le Christ, nous voyons quelque chose, et le Christ, par sa vie, par son œuvre, par ce qu'il a fait, par sa mort et sa résurrection, rend visible l'action de Dieu dans le monde. Donc, en montrant le Christ, on fait voir Dieu. Et ça, je crois que c'est pareil un peu pour les hommes. Parce que Dieu, dans ce monde, se manifeste par ses fidèles, par ceux qui témoignent et qui croient en lui. Mais témoigner, ce n'est pas faire du prosélytisme et des discours. Témoigner, c'est le chrétien témoigne par sa manière de vivre. Et donc, nous glorifions Dieu non seulement quand nous lui donnons du poids dans notre existence, mais nous glorifions Dieu aussi, je dirais, par notre manière de vivre, parce que notre existence devient une manifestation de la grandeur et de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le but, je crois, de toute vie chrétienne, que notre vie manifeste la grandeur de Dieu et soit une manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Le chrétien est aimé, il est libéré, il est pardonné. Est-ce que notre vie dans ce monde est une manifestation d'amour, de liberté et de grâce? Voilà. Le chrétien devrait être une gloire de Dieu dans ce monde. Et il devrait manifester ce Dieu d'amour, de grâce, de paix dans ce monde. Et comme le dit Jésus encore dans l'Évangile, il dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire que votre lumière brille dans ce monde, afin qu'en vous, ils voient ce que Dieu fait. Et ils voient Dieu soit rendu manifeste. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste en nous, il faut le laisser agir, lui donner une place. Donc voyez-vous, au début j'ai eu tort quand j'ai présenté Dieu comme un lest. Dieu est un lest, mais ce n'est pas une gueuse de plomb. Évidemment, le lest, c'est bien aussi, on accroche sa tente comme le scout dans la tempête, met des grosses pierres pour que sa tente ne s'envole pas. Donc nous accrochons notre vie au rocher, à la forteresse. Mais Dieu n'est pas qu'un rocher immobile et pesant. Dieu, c'est aussi une puissance d'action. Et ça, c'est donc l'autre chose fondamentale. Il faut laisser à Dieu de la place pour qu'on ait de la place pour ce lest en nous de Dieu, mais aussi laisser de la place pour que Dieu puisse agir en nous et pour que sa gloire agissante et puissante puisse œuvrer en nous. Et c'est alors que nous héritons une partie de sa gloire et de sa puissance. Et c'est ce qu'exprime Paul dans ce passage qui m'est si cher dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, quand il dit « Est-ce que moi je me glorifie ?» Et il dit « Non, non, pas du tout. Moi je ne me glorifie pas moi-même, parce que, dit Paul, je ne peux pas me glorifier moi-même. Ma seule gloire, elle est dans mes faiblesses, parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et dit-il, je me glorifierai de mes faiblesses, parce que mes faiblesses, c'est là que Dieu agit. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que ce sont dans mes faiblesses que je peux laisser Dieu agir. Et c'est là que la gloire de Dieu se manifeste, parce qu'il va faire en moi ce que justement j'étais incapable de faire par moi-même. Le vrai poids de notre vie, c'est donc ce que nous y mettons. Et la foi, c'est de prendre Dieu, de le mettre comme un poids dans notre existence et aussi, je dirais, comme un tigre dans notre moteur, de le laisser agir, parce que notre vraie force d'action, ce n'est pas ce que je peux faire moi avec ma faiblesse, mais c'est laisser l'esprit agir en moi et de me laisser transformer par une puissance de vie et de création qui me dépasse. Donc vous voyez, la gloire de Dieu, c'est une bien grande chose et c'est un vrai pouvoir de vie et d'amour et surtout d'éternité pour nous tous. Amen.